suite, Radio Alpa en escalpade, présenté par Charlie Pless.
Bonjour et bienvenue dans cette émission en direct des cinéastes, le cinéma d'art et d'essai du Mans, en préséance du film La Belle Ville, réalisé par Manon Turina et François Marquès. Un film documentaire qui s'interroge sur la ville de demain. Comment adapter nos espaces urbains aux enjeux climatiques et démographiques à venir? Manon Turina et François Marquès sont partis à la rencontre de ceux qui, partout dans le monde, ont déjà mis en place des initiatives concrètes. La projection du film ce mardi 12 mai au cinéaste est proposée par le Pays du Mans en partenariat avec Le Mans Métropole et la fabrique Rêve de Ville dans le cadre du Mois de la Nature en Ville. Et pour cette émission, nous recevons donc en plateau le réalisateur François Marquès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc avec nous pour nous parler de la genèse de ce projet, de ce qui a nourri vos interrogations et vos réflexions sur la ville de demain et comment s'est passée la réalisation de ce documentaire, les rencontres et les découvertes qu'elle a occasionnées. Et pour ceux qui sont présents au cinéaste ce soir, vous aurez l'occasion de retrouver François Marquès après la projection pour lui poser vos questions et discuter avec lui de ce que vous aurez vu dans le film. Et on commence tout de suite cette émission en préséance du film La Belle Ville.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative. Vous êtes donc, François Marquès, l'un des deux réalisateurs de La Belle Ville avec Manon Turina. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'a priori, rien ne vous destinait à réaliser un film. Qu'est-ce qui a fait démarrer le projet, en fait ?
Ce qui a fait démarrer notre projet, c'est notre prise de conscience et notre vision du monde et de la vie et de la ville. Avec Manon, on a toujours vécu en ville depuis tout petit. On vivait à Londres au moment de la crise Covid et c'est là où on a pris conscience vraiment, au moment où tout s'est arrêté, de l'environnement dans lequel on vivait, dans ces villes grises, bétonnées, polluées, bruyantes, où on est de plus en plus nombreux et pourtant on ne s'est jamais senti aussi seul. Et c'est là qu'on avait le temps, puisque tout était à l'arrêt. Et c'est là où on s'est posé un peu toutes ces questions, on s'est interrogé, on a fait des recherches, des découvertes. Et donc, on a voulu partir documenter ça, ou en tout cas découvrir tout.
Alors, qu'on comprenne bien, pourquoi c'est pendant le confinement, pendant que les villes étaient vides, que vous avez découvert que les villes étaient grises, bétonnées, etc. Parce qu'on peut le voir tous les jours, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là?
Alors, il y a deux choses. Je pense que déjà, dans notre quotidien, on a un peu une vie à 100 à l'heure. En tout cas, nous, on l'avait avec des boulots. On sortait d'école de commerce, des boulots et des agendas bien remplis. Et donc déjà, on n'est pas forcément conscient, justement, on le voit, mais notre inconscient le voit, mais nous, on n'est pas conscient de voir un peu, effectivement, toutes les problématiques que rencontrent les villes et surtout ce que ça allait devenir. Ça, c'est la première chose. Donc quand on est à l'arrêt et qu'on ralentit un peu, on est plus à même de voir dans quel environnement on vit. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pendant cette crise Covid-là, tout était à l'arrêt, les villes étaient à l'arrêt, les activités humaines étaient à l'arrêt et tout d'un coup on a vu aussi une espèce d'espoir où la nature reprenait ses droits, on a vu des animaux presque sauvages revenir dans les villes et une nature qui se réappropriait la ville, hein. c'est vraiment le mot. Et donc c'est ces deux phénomènes qui nous ont fait un peu cogiter et on s'est dit qu'il y avait un sujet ou en tout cas on s'est intéressé à la ville telle qu'elle était aujourd'hui et ce qu'elle pourrait devenir demain.
Et donc oui, vous avez donc quitté vos bureaux pour vous rendre directement sur le terrain. Est-ce qu'à ce moment-là déjà, vous aviez en tête le projet de réaliser un film ou c'est venu qu'après ?
Non, pas du tout. Pas du tout. On s'est interrogé d'ailleurs dans un premier temps au sujet et le film est venu bien après.
Et vous aviez déjà de l'expérience dans le domaine de réalisation de films ou c'était une première pour vous ?
Non, pas forcément. Les deux, on sort d'école de commerce. Voilà, on avait déjà filmé un peu avec notre téléphone, mais vraiment pas du tout dans la réalisation, dans la production et encore moins dans la prise de vue, prise de son. C'est des choses qui sont venues après pour ce projet où on s'est un petit peu formé, effectivement, pour en parler. Mais...
Et du coup, ouais, ça vous a posé quelques difficultés techniques, peut-être, j'imagine ?
Ouais, bah après... Quand l'idée de faire un film est venue, effectivement, on a pris la décision de préparer d'ailleurs ce voyage et de se former surtout. Et notamment, moi, à la caméra et à la prise de son. Donc j'ai eu la chance de rejoindre une formation assez rapide pour pouvoir avoir un peu les bases. Et puis après, c'est sur le terrain. On a eu 6 mois de tournage, donc on a eu le temps de faire beaucoup d'erreurs. Mais du coup, avec quelques prises qui ont été bonnes. Contrairement à un film classique où les jours de tournage sont comptés, où il y a une production derrière, où il y a un budget à respecter, nous on était plus indépendants. Donc on a pu effectivement prendre le temps de découvrir vraiment le sujet, les personnages qu'on rencontrait et les villes qu'on visitait.
Vous vous êtes donné le temps de vous tromper et de vous former sur le tas, quoi.
Exactement.
Alors on va rentrer un peu plus avant dans le sujet de votre film, rencontrer les acteurs qui travaillent à construire la ville de demain, une ville qui répond aux enjeux à venir, enjeux liés au réchauffement climatique ou à l'évolution démographique. À Paris, à Bruxelles, à Chicago, Milan, Zurich ou encore Mexico. Vous n'êtes pas parti à l'aveugle, j'imagine. Il y a eu un travail de sélection des initiatives que vous vouliez filmer ?
Oui, ouais, il y a un travail de recherche, justement, quand on avait le temps. Déjà, premièrement, documentaire. Donc, on s'est documenté sur, déjà, quelles étaient les vraies bonnes solutions, parce qu'on peut vite trouver des fausses bonnes solutions, surtout quand on se documente sur Internet aujourd'hui, des choses comme ça.
Et alors, puis on... des fausses solutions, des fausses bonnes idées, en fait.
Oui, des fausses bonnes idées, pardon. Ouais.
C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez des exemples en tête de ce que vous aviez vu ? Vous disiez peut-être c'est une bonne idée, finalement non.
Oui, tout ce qui tourne autour de la nature en ville, autour de la technologie, on a vu et on en a même visité. Hein, c'est-à-dire que même des fois, même par rapport à ce qu'on a vu en se documentant, on a trouvé ça quand même intéressant. Et puis en se rendant sur site, on s'est dit c'est peut-être pas ça la ville qu'on imagine, la ville idéale. Notamment, sans nommer le nom, mais une solution high-tech qui est hyper énergivore, qui demande beaucoup d'investissement pour dépolluer l'air avec une mousse qui est cultivée hors sol, etc., pour avoir un semblant de forêt. Et pour nous, ce n'était pas forcément ça la ville idéale, la ville de demain, qui s'appuie et qui se repose sur encore un besoin d'énergie et pas forcément sur ce que la nature peut nous proposer naturellement depuis des milliards d'années, quoi.
Du coup, concrètement, c'était quoi vos critères de sélection, en fait ?
Bah déjà, c'est effectivement la solution. Il faut qu'elle soit pour nous viable et qu'elle soit pérenne dans le temps, hein, qu'elle réponde à vraiment un sujet d'adaptation. Et la deuxième chose, je pense, c'est aussi la personne. C'est la personne qui porte ce projet et qui a aussi, au-delà de l'idée et de la solution proposée, c'est aussi une philosophie derrière, surtout pour un documentaire qui peut aussi derrière inspirer des gens, les sensibiliser, les toucher avec de l'émotion et donc peut-être les pousser à l'action derrière. Et c'est ça aussi qu'on cherchait, c'est à la fois la solution, qu'elle soit viable et aussi et duplicable aussi, des solutions justement, parce qu'on allait partout dans le monde, mais l'idée c'était de se dire, bah, il faut les ramener peut-être aussi pour notre propre ville ici en France ou en Europe, du moins, et donc aussi la personne, et ça c'était important.
Mais c'est marrant, les personnalités vous ont marqué peut-être tout autant que les projets, mais sans avoir rencontré les personnes, comment vous saviez du coup si la personne allait vous parler ou pas, quoi ?
Ouais, il y a des personnes, notamment Ken qu'on rencontre à Chicago, de suite, parce qu'il est déjà un peu médiatisé là-bas, avoir vu déjà des documentaires dans lesquels il intervenait, pour avoir déjà un peu changé. C'est vrai que je n'ai pas totalement répondu à ta question, mais on avait des recherches documentaires internet. On a ensuite rencontré beaucoup d'experts plutôt en France ou même un peu en Europe avec des visios qui nous sensibilisaient, qui nous disaient voilà, attention justement à ce genre de solution, il faut regarder macro, micro. Et ensuite d'ailleurs, ils nous conseillaient des bouquins, ils nous conseillaient d'autres solutions à aller chercher, etc. Donc c'est vraiment tout un écosystème. Voilà, on s'est imprégné de toute cette communauté de la nature en ville. Derrière, on a choisi du coup effectivement les villes qu'on voulait aller voir et surtout les personnes qu'on voulait rencontrer, couplées bien sûr d'experts, parce qu'il y a des porteurs de solutions, ces personnes inspirantes, et puis derrière, couplées avec des experts qui viennent des fois mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour le téléspectateur.
Et ces personnalités, finalement, vous les repériez parce que... elles avaient quelque chose en commun ? Il y avait un truc que vous recherchiez chez elles qui vous faisait dire « Ah, celle-là, il faut aller la voir ».
Ouais, l'authenticité, je dirais, de ces personnages-là, des personnages qui... En fait, moi, je trouve qu'il faut aussi rattacher tout ça à l'humain. C'est pas juste qu'on construit la ville, ça reste des humains. Ces gens, ils ont un combat, en fait. Et c'est ça que je trouve qui est magnifique, c'est quand on voit quelqu'un qui se bat depuis des années et qui propose cette solution et qui en parle avec les tripes. C'est là où moi je trouve, enfin moi, si je ressens ça rien qu'avec un coup de téléphone dans un film, je me dis ça va peut-être toucher les gens. Et puis voilà, donc c'est vraiment une histoire très personnelle qu'on peut avoir avec ces personnages.
Et alors, est-ce qu'il y a des initiatives dans votre travail de recherche que vous aviez repérées mais que vous n'avez pas pu aller constater sur le terrain?
Oui, il y en a plusieurs, notamment à Singapour et au Japon. C'était post-Covid. Ces pays-là étaient encore fermés, donc on n'a pas pu y aller aussi. Et puis aussi pour des questions de coûts. Il y avait une autre personne aussi qu'on voulait voir aux États-Unis, qui s'appelait le Gangster Gardener. Et lui, pareil, pour des questions de coût, on ne pouvait pas aller n'importe où non plus. Et pour aussi, au maximum aussi, pas avoir trop d'impact aussi environnemental sur le tournage. Et donc, il fallait faire des choix pour mutualiser les déplacements et pas non plus aller tout voir. Donc voilà, il y a aussi à la fois le contexte de la pandémie et à la fois la partie environnementale et économique.
Donc le gangster gardener, donc le jardinier gangster, ouais. Si on peut le traduire comme ça, pourquoi il s'appelle comme ça?
Alors, c'est parce que c'est un ancien prisonnier, des quartiers de San Francisco, qui en sortant de prison a eu, pareil, une prise de conscience, s'est dit, mais c'est quoi tous ces jeunes? Moi, il y a 10 ans, il n'y avait pas tous ces fast-food, ces trucs, les gens ne se nourrissent mal, et ben moi je vais faire autre chose, je vais désobéir à la ville et je vais commencer à planter des fruits et légumes au bord des routes. Et je vais inviter à tous les enfants, tous les jeunes, à planter avec moi. Et on va comme ça avoir une certaine sécurité alimentaire pour les quartiers défavorisés, recréer du lien, ça, pour lutter contre forcément la violence aussi dans ces quartiers-là. Et voilà, donc c'est un personnage aussi très atypique pour le coup, assez médiatisé, qu'on aurait aimé voir. Mais voilà, donc il a fallu faire des choix. En tout cas, chouette initiative si ça vous intéresse de regarder.
Et alors, à Singapour et au Japon, c'était des initiatives différentes de ce que vous avez pu montrer dans le film?
Non, je pense qu'il n'y allait avoir rien de forcément en termes de solutions différentes.
Il y a des choses qui se recoupent.
Il y a des choses qui se recoupent. Après, Tokyo, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait déjà des personnages assez forts, des urbanistes aussi experts qui auraient pu être très intéressants, de même pour Singapour. Et puis voilà, quand on voit le nombre d'habitants qu'il peut avoir dans les grandes villes du Japon et aussi ces petits jardins qui poussent sur les toits, c'était assez rigolo. Et là, même à l'échelle presque individuelle, ça se faisait au Japon beaucoup. C'est même presque culturel de commencer à cultiver sur son toit à Tokyo, par exemple.
Oui, parce que donc là, on a parlé ces trois dernières minutes de ce que vous n'avez pas pu aller voir, mais vous êtes tout de même parvenu à rencontrer une vingtaine d'acteurs et actrices de la transformation de la ville. On peut les voir dans le film que vous avez organisé en trois chapitres. D'abord la végétalisation, puis l'agriculture urbaine, et enfin le compostage. Alors, on va voir un petit peu chacune de ces trois thématiques. Déjà, dire que la végétalisation en ville, ça pose quand même un problème majeur. Où trouver l'espace pour mettre davantage d'espace vert dans des villes qui sont déjà saturées de construction? Alors, quelles solutions sont proposées par les gens que vous avez rencontrés?
Ouais, effectivement, le problème, c'est une question de place. Et dès la première personne qu'on a rencontrée, d'ailleurs, pendant le début de ce voyage tournage, ça a été Fernando, hein, qui a introduit aussi un peu le film, qui lui, il dit, voilà, il n'y a pas de place par terre pour pouvoir mettre de la végétation, donc moi, je vais le faire sur les murs. Et donc, lui, il a commencé à planter. Sans planter directement, mais en tout cas trouver une solution pour végétaliser les murs de la ville. Donc c'est une première piste. Ensuite, il y en a d'autres qui végétalisent plutôt les toits, mais ça pose aussi des problèmes techniques, hein, du poids que peut supporter un toit, surtout sur des anciens bâtiments. Mais il y a aussi des gens, notamment à Chicago, je ne vais pas trop en dire, mais voilà, qui trouvent des solutions techniques pour pouvoir aussi mettre des petites forêts sur des toits d'anciens bâtiments.
C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas du tout, le poids de la végétation, mais ça rentre en compte.
Pas de la végétation, surtout du substrat, donc de la terre en fait, dans laquelle pousse l'arbre. Donc effectivement, c'est là où ça peut poser de problèmes. Et il y a d'autres espaces aussi complètement sous-estimés, comme les souterrains, notamment avec, pourquoi pas, des productions de champignons qui n'ont pas besoin de lumière. Mais qui, après, là, on passe déjà sur un autre sujet, j'anticipe un peu, mais en tout cas, c'est un espace aussi qu'on pourrait, entre guillemets, cultiver.
Oui, parce que, alors effectivement, les exploitations de champignons dans les caves, il y a un passage qu'on voit comme ça dans le film. Ça rentre dans la végétalisation de...
Non. Ouais. Non, c'est moi qui suis allé un peu trop vite. Oui, c'est plutôt agriculture urbaine.
Je pense qu'on passe plutôt sur l'agriculture urbaine à ce moment-là, effectivement. Alors, un des intervenants, Fernando Ortiz Monasterio, donc vous l'avez cité, il donne un chiffre qui donne un peu le vertige. Donc, c'est lui qui fait les végétalisations verticales sur les murs. Alors, pour assurer la bonne santé des citadins, une ville aurait besoin de 9 mètres carrés d'espace vert par habitant. Alors, pour des villes qui comptent des millions d'habitants, on se demande comment c'est possible. Et si la solution de la verticalisation des espaces verts sera une solution suffisante. Vous, après votre voyage, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble utopique de parvenir à une végétalisation de la ville suffisante pour la bonne santé des citadins avec ce chiffre de 9 mètres carrés d'espace vert par habitant? Vous pensez que c'est atteignable?
Alors, je pense que c'est atteignable, mais c'est utopique de penser qu'on peut le faire que sur des murs. Et au-delà d'être utopique, je pense que ça serait même une erreur, parce que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Je pense qu'il faut commencer par recréer de la pleine terre, hein, c'est ce qui est le plus, on va dire, bénéfique en termes, si on parle de bénéfices écologiques. Donc il faudrait peut-être prioriser des solutions vraiment pleine terre dans nos rues, réaménager justement l'espace, se réapproprier l'espace aussi en tant que citadin. Ça serait pour moi, je pense, la première étape, et on commence à le voir dans plusieurs villes, et même d'ailleurs ici, pour m'être baladé tout à l'heure dans la ville. Ça serait la première étape, effectivement. Après, derrière, en termes de bénéfices écologiques, les murs et les toits peuvent en avoir, mais c'est beaucoup moindre, notamment sur la captation de CO2 ou la captation d'eau de pluie. Donc, ouais.
Oui, non, vas-y, je vous laisse finir.
Non, non, donc ce serait voilà, la première étape. Donc je dirais que ce n'est pas utopique de réaliser ces 9 mètres carrés, mais c'est utopique de penser qu'on peut le faire qu'à travers les murs.
Donc vous pensez que à travers les murs, ce n'est pas la meilleure solution parce que ça ne végétalise pas suffisamment, ou parce que aussi derrière, il y a une consommation d'énergie peut-être qui est trop importante?
Non, non, pas forcément, parce que ça reste du low-tech, donc ça c'est... C'est juste qu'en termes de bénéfices écologiques, ce n'est pas le plus simple. C'est peut-être aussi que ça a un coût d'installation et d'entretien. Ça, pour le coup, ce n'est pas forcément
oui,
très résilient.
Du coup, c'est des végétaux qui sont sur, qui sont sur des matériaux qui ne sont pas du tout faits pour accueillir des végétaux à la base.
Si, alors, par exemple, sur le projet de Fernando, donc à Mexico City, il le fait sur un substrat, sur un textile recyclé, donc presque végétal, qu'ils ont cousu eux-mêmes, avec notamment en faisant travailler tout un écosystème de quartiers défavorisés, etc. Donc un truc vraiment, vraiment intéressant. Et donc après, ils mettent de la pleine terre là-dessus. Après, se pose la question de l'entretien et de l'eau, de quelle eau on utilise, etc. Donc il faudrait pousser encore vraiment plus loin la solution pour qu'elle soit parfaite. Mais ce que je dis, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est qu'il y a autre chose à faire en premier. Mais en tout cas, cette solution, il faut la garder parce qu'elle est intéressante aussi.
Mais du coup, la gestion de l'eau, ça devient une nouvelle problématique quand on végétalise autant les villes, en fait.
Complètement, complètement. Ça sera peut-être d'ailleurs un sujet de prochain film.
On continue de discuter avec vous des initiatives que vous documentez dans votre film La Belle Ville, François Marquez. Juste après une petite pause musicale, tout de suite, on va écouter Coup de soleil de Camille Yembe. À tout de suite.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Quelques coups de soleil sur mes pommettes en été. Les cheveux longs me donnent la fièvre. J'ai dans le cœur une sirène. Je peux plus rien te cacher cette fois. Quelques trous dans ma veste. J'ai les chaussures abîmées. T'as tout vu, t'es resté quand même. Je veux vivre cette scène mille fois.
Ouais, stop, je te mets dans mon portable. Les photos, les lettres, les mots et tout. Tout est dans le tiroir. L'hiver s'installe en tout l'appart sur nos visages. Est-ce que nous deux ça se sépare? J'aimerais qu'on attrape
quelques coups de soleil. De soleil.
Soleil.
Quelques coups de soleil. Il faut de soleil. Rien dans les poches, rien dans la tête. On s'est connus assez tôt. 1h du matin, dans le caisson s'est mélangé la peau. J'aurais voulu que le temps s'arrête.
Je
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
De retour sur Radio Alpa, en direct des cinéastes, en préséance du film documentaire La Belle Ville, réalisé par Manon Turina et François Marquès. Séance organisée par le Pays du Mans, en partenariat avec Le Mans Métropole et la Fabrique Rêve de Ville, dans le cadre du Mois de la Nature en Ville. Et nous sommes toujours en compagnie du réalisateur François Marquès. Juste avant la pause, je vous demandais si ces grands projets de végétalisation des villes qu'on peut voir dans votre film n'étaient pas utopiques. En tout cas, ce qu'on constate, c'est vos réactions quand vous entrez dans ces espaces verts, ces jardins partagés. On ressent une certaine quiétude, une sérénité assez opposée au rythme habituel de la ville. Quel ressenti, en fait, est-ce que vous aviez au sein de ces espaces? Est-ce que vous sentiez physiquement ou moralement leur bénéfice sur la santé?
Alors moi, ça serait mentir de le sentir directement, même si on sent qu'on est quand même plus apaisé quand on se retrouve dans ces lieux-là. Ça nous invite à ralentir, mais c'est surtout en observant et en écoutant les gens qui font ça de manière assez récurrente, en fait, qu'ils font presque au quotidien, tous les soirs après le travail, de se retrouver dans ces espaces-là de bien-être, ces havres de paix, comme certains les nomment. C'est ça où vraiment on se dit, ah, en fait, ça sert à ça, la nature en ville, ça sert à ralentir, ça sert à déconnecter, et ça sert à recréer du lien. Donc c'est plus à travers aussi le regard des gens, et en les observant, en documentant, en filmant, que j'ai vraiment ressenti ce truc-là. Ça serait mentir de dire qu'en 2-3 jours, on déconnecte, on ralentit, même si c'est quand même quelque chose qu'on peut ressentir sur le moment quand on arrive.
D'accord, le bien-être vient surtout en fait du fait que ça devient des espaces de lien social, en fait.
Ouais, aussi beaucoup. On en parle un peu dans le film, mais je pense qu'au-delà de la nature en ville et encore une fois des bénéfices écologiques que ça apporte aussi un bienfait social fou de recréer du lien, et on le sent. Moi, je trouve qu'on est de plus en plus nombreux à vivre en ville, et pourtant on ne s'est jamais senti aussi seul. Et donc c'est vraiment un sujet qu'on a pu aborder aussi avec certaines personnes, qui n'est pas forcément majeur dans le film, mais en tout cas on a senti que c'était l'une des raisons pour laquelle les gens venaient ici, quoi.
Alors, dans la deuxième partie du film sur l'agriculture urbaine, on découvre les tiny forests et les jardins partagés, avec des systèmes comme des circuits d'eau fermés, par exemple, avec des poissons qui interviennent. Vous pouvez nous en parler peut-être un peu. Et l'idée que ces jardins, surtout, pourraient mener à une autosuffisance de la ville, pourraient nourrir la ville. Mmh. Alors, si Manon se montre enthousiaste à cette idée, vous, François, vous êtes plus réticent, vous trouvez même ça inquiétant, vous dites, dans le film. Alors, pourquoi ça?
Parce que c'est la question, on s'est dit, ben, si la ville devient autosuffisante, on va plus regarder la ruralité, en fait, et on va oublier tout ça. Et pourtant, il y a des gens qui vivent dans les campagnes et qui essayent de nous nourrir aujourd'hui, et qui le font bien et qui le feront toujours mieux que nous sur des toits avec des plantes hors sol, même si c'est beaucoup mieux en termes de consommation d'eau, etc., etc., etc. Ça ne sera jamais aussi bon nutritivement. Et aussi, on oublie beaucoup aussi, pareil, encore une fois, les bénéfices écologiques que peuvent apporter les agriculteurs qui produisent, on va dire, de manière conventionnelle.
Donc la vocation de l'agriculture urbaine, c'est pas forcément de nourrir la population, du coup?
Ça peut, mais vraiment, il ne faut pas le voir comme rendre la ville autonome. Ça peut, mais c'est vraiment, voilà, beaucoup de 10, le 10, ce serait peut-être 10-20%. Mais c'est surtout, je crois, remettre la main dans la terre, revoir comment une tomate cerise ou une tomate tout court pousse. C'est se reconnecter, en fait, au vivant. C'est surtout ça, et de comprendre qu'est-ce que ça demande aussi à un agriculteur de faire, de produire et de bien produire, et le temps que ça peut prendre aussi, et de se reconnecter aussi aux saisons, et de voir que les fruits et légumes, ils poussent pas non plus toute l'année, et il faut respecter ces saisonnalités si on veut manger localement.
Oui, donc ne pas perdre de vue ces campagnes. D'ailleurs, il y a plusieurs intervenants du film qui en parlent, du fait justement que cette agriculture urbaine, ça doit garder les yeux ouverts sur la ruralité, comme vous disiez. Est-ce que ça veut dire que la transition des villes, elle doit aller de pair avec la transition de l'agriculture? Est-ce que les deux marchent main dans la main?
Oui, bien sûr, parce que justement, ces fermes urbaines, elles aident à ça aussi, à recréer du lien avec notre assiette, avec la nourriture, mais aussi recréer du lien avec les personnes qui nous nourrissent. Et donc, de suite, on a envie de s'intéresser justement au travail fait par les agriculteurs aujourd'hui. Donc ça va complètement de pair et ça sensibilise aussi les gens à tous les enjeux du monde agricole.
Et il y a des circuits qui se créent du coup entre les agriculteurs et les jardins partagés ou...
Alors ça pourrait, ouais. Parce qu'effectivement on a vu des solutions où un agriculteur venait sur une ferme urbaine une fois par semaine livrer ses fruits et légumes en complément des quelques fruits et légumes qui sont déjà fait sur place dans la ville, donc ça recrée ce lien, pas forcément du champ à l'assiette virtuellement, mais même en termes de rencontrer la personne qui nous nourrit. Et on est, comme beaucoup d'agriculteurs nous l'ont dit, c'est quand on voit les gens qu'on nous nourrit, forcément on a envie de bien les nourrir, on n'a pas envie de les empoisonner, parce qu'on sait à qui on vend nos fruits et légumes. Et donc c'est ce lien-là que les fermes urbaines recréent.
On en revient encore à ce lien social primordial. Vous parliez de Havre de Paix tout à l'heure pour parler des jardins partagés. L'un des intervenants du film parle de Havre de conscience. Qu'est-ce qu'il entendait par là, vous en savez plus ?
C'est je pense un côté beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire que lui pour le coup quand il se retrouve dans ces lieux-là, quand il met la main dans la terre, il se retrouve à lui-même. Et c'est un peu ce qu'il nous expliquait, c'est-à-dire que
il y a un moment où il met la main dans la terre
et il la garde longtemps et il fait pas semblant, c'est-à-dire qu'il sent vraiment un bien-être personnel de se reconnecter à l'essentiel et c'est je pense ça qu'il veut dire avec ces mots.
Mais d'ailleurs, on l'entend chez beaucoup de personnes dans le film, hein, ce besoin de se reconnecter à la nature. Mais ce besoin, on ne le trouve pas chez tous les citadins. Comment le faire partager, ce besoin ? Comment généraliser la prise de conscience, finalement ?
En faisant des films documentaires sur la nature en ville, peut-être. Non, non mais c'est ça, c'est sensibiliser, éduquer, acculturer. Je pense que c'est la première étape. Et une fois qu'on a compris que ça peut... Et après, c'est surtout... Non, ça, c'est la première étape. Et je dirais la deuxième étape, ça serait d'expérimenter. C'est de dire, maintenant que vous savez à quoi ça sert, pourquoi c'est fait, venez tester. Et vous allez voir ce que ça va faire pour vous.
Et pendant votre voyage, pendant vos visites, est-ce que vous avez rencontré des gens qui, au contraire, étaient très réticents par rapport à ces jardins partagés, tous ces espaces verts ? Est-ce qu'il y a des gens qui voient ça d'un mauvais œil ?
Alors, pas forcément pendant notre voyage, parce qu'on était forcément attirés par les gens qui étaient moteurs de ce mouvement-là, mais dans mon entourage, quand je reviens forcément dans ma famille ou mes amis proches, forcément, il y a des gens qui s'en foutent, et je reviens à la réalité de me dire, en fait, c'est un sujet auquel qui m'intéresse depuis maintenant 2-3 ans, mais en fait, je me rends compte que la moitié, voire beaucoup de gens s'intéressent très peu au bienfait de ce sujet-là. Mais je dirais que c'est pas grave. Mais je pense que s'il y a déjà une bonne partie de la population qui s'intéresse et qui croit au bienfait de la nature en ville, forcément derrière ça va enclencher de la part des politiques, du monde économique, des choses. Donc on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais il faut déjà au moins avoir un bon groupe de personnes qui peut l'être.
Et alors en ce qui vous concerne, vous et Manon Turina, est-ce qu'il y a eu une évolution de votre intérêt par rapport à ces questions entre avant la réalisation du film et aujourd'hui ?
Forcément, il y a une prise de conscience, comme j'ai expliqué, qui nous a amené à se lancer dans ce projet. Et puis derrière, il y a toute une compréhension des intérêts de la nature en ville, des bienfaits, des bénéfices écologiques. Et personnellement, on a été convaincus parce qu'on a rencontré ces personnes, on a expérimenté, on a mis aussi un peu la main dans la terre. On a pris le temps aussi de participer un peu à certains projets et de prendre le temps de connaître les bienfaits. Donc ouais, on a quand même... je dirais pas complètement changer notre mode de vie, mais on l'a adapté, je pense, à cette philosophie-là. Ouais.
Est-ce que vous avez adapté quand même certaines choses dans votre mode de vie ? Est-ce que vous avez pris des engagements personnels pour participer à cette transformation de la ville ?
Ouais, complètement. Après, je pense que ça reste des petits gestes, hein, mais le fait de s'inscrire dans une AMAP, justement, des AMAP, c'est des associations où on recrée le lien entre l'agriculteur qui vient directement livrer justement ses fruits et légumes en ville. Donc ça, c'est... Déjà, on mange local, on revoit cet agriculteur, on le soutient. Donc, en termes d'alimentation, moi, j'avoue que j'ai switché pas mal avec ce film-là. Ça m'a donné envie de me reconnecter aux campagnes, au monde agricole. Et après aussi sur les déchets. Sur les déchets, forcément, j'ai eu cette prise de conscience que nos biodéchets, les déchets végétaux et alimentaires, on pouvait en faire quelque chose et que c'est pas anodin. Et donc de voir le résultat à petite, moyenne et grande échelle, ça m'a donné envie d'être acteur.
Oui, et cette question des déchets, des biodéchets, c'est l'objet de la troisième partie du film, le compost, hein, qui doit devenir un écrou essentiel. C'est pas très glamour le compost, mais pourtant voilà, c'est presque le plus important. Pourquoi ça?
Parce que le milieu naturel, j'ai envie de dire, le fait depuis des millions d'années, et nous on a un peu coupé ce cycle naturel-là, c'est-à-dire que les fruits et les feuilles d'un arbre tombent, et c'est ça qui nourrit le sol, et c'est le sol qui va nourrir l'arbre. Donc c'est un cycle naturel qu'on a rompu, surtout en ville. Et en fait, ce qui est intéressant dans nos découvertes et dans le film, c'est qu'on peut voir qu'on peut le faire aussi à l'échelle de la ville, et donc en ville, pour encore une fois recréer du lien avec les campagnes, puisque ce compost pourrait nous aider à végétaliser, à faire des fermes urbaines en ville, mais pourrait aussi repartir dans les campagnes pour nourrir les sols et donc aider les agriculteurs à mieux nous nourrir.
Mmh. Idéal, c'est de tendre vraiment à un objectif de zéro déchet pour la ville, en tout cas zéro biodéchet, on va dire. Enfin, en tout cas, zéro déchet qui part, qui est inutilisé, quoi.
Je pense que c'est un premier pas. Si on veut aujourd'hui trier ses déchets, je pense que c'est la première chose à faire. C'est peut-être la plus vertueuse.
Ouais. Parce que cette transformation, elle doit se faire ensemble, certes. Mais pour le faire ensemble, il faut d'abord que ça passe par des actes individuels.
On a vu qu'il y avait plusieurs échelles d'action. On peut commencer individuellement. Il existe des solutions. On peut aussi inciter la ville à mettre en place des solutions, et ça on peut le faire collectivement à travers des associations pour avoir des lieux où on peut composter ensemble en ville. Et on voit aussi que la ville, par pression du gouvernement, de l'Europe ou des citoyens, est obligée aujourd'hui de proposer une solution de collecte des déchets séparés.
En tout cas, pour les actions individuelles, on peut trouver certaines ressources, je crois, François Marquez, sur votre site La Belle Ville. Qu'est-ce qu'on peut trouver, en fait?
Alors, sur ce site La Belle Ville, c'est un site qui a été créé pour justement ne pas s'arrêter au visionnage du film et pouvoir derrière se dire, bah, si je veux passer à l'action, comment je fais? Et donc, on se retrouve sur ce site internet, La Belle Ville-le film. Et on peut voir différentes ressources, des fiches techniques, mais aussi des cartes interactives où on peut retrouver près de chez soi les jardins partagés, les fermes urbaines qui se trouvent à proximité. Et on peut trouver aussi tout ce qui est site de compostage partagé autour de chez soi. Donc c'est des cartes interactives qui peuvent nous aider à passer à l'action.
Alors on va bientôt faire une deuxième petite pause. Juste avant, j'avais parlé de cette initiative avec les poissons. Je pense que c'est une de celles qui m'a le plus marqué. Est-ce que vous sauriez nous expliquer comment ça fonctionne?
Alors c'est de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est effectivement une solution en circuit fermé, pardon, où il y a des piscicultures, donc on élève des poissons dans un endroit très restreint. Donc les excréments des poissons sont la nourriture des plantes. Donc il y a des tuyaux qui sont connectés entre les bassins où on élève les poissons aux plantes qui sont élevées sous serre, hors sol, donc dans des petits substrats de terre. Donc elles n'ont pas besoin de beaucoup de substrats, puisqu'en fait les nutriments des poissons l'apportent. Mais voilà, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes, pourquoi pas pour des aromates, quelques fruits et légumes.
Mais donc là, c'est nouveau, pour moi, c'est les biodéchets en fait qui sont réutilisés encore.
Ouais, c'est le déchet, effectivement, les excréments des poissons qui est un déchet, qui est utilisé comme nourriture des plantes. Donc effectivement, c'est hyper vertueux, hyper intéressant. Le bâtiment, en plus, était presque neutre en carbone, puisqu'il y avait des panneaux solaires, etc. Donc la solution est franchement presque idéale, mais il ne faut pas tout miser sur ça pour nourrir la planète demain. En tout cas, alors, pas que ça.
On se retrouve pour la suite et la conclusion de notre échange avec François Marquez. Juste après une petite pause musicale, on écoute A2L, Millibri, à tout de suite.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Je t'ai mis
regardes, je sais pas du vide. C'est toi, tu me regardes. C'est toi, tu me regardes. Et personne sait que j'attends la crue.
Écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
De retour sur Radio Alpa en direct des cinéastes, en préséance du film documentaire La Belle Ville, réalisé par Manon Turina et François Marquès. Séance organisée par le Pays du Mans en partenariat avec Le Mans Métropole et la Fabrique Rêve de Ville dans le cadre du Mois de la Nature en Ville. Je suis toujours avec François Marquès, l'un des deux réalisateurs et producteurs du film. Vous nous donniez quelques conseils sur comment adapter nos vies à l'échelle individuelle pour faire advenir la ville de demain, mais l'effort des individus est suffisant pour faire tous ensemble? Comment faire déjà, François Marquès, qui ça implique en fait, tous ensemble? Quels acteurs doivent être impliqués dans cette transition?
Tous ensemble se traduit par effectivement l'action individuelle, personnelle, mais aussi collective, ce qu'on peut faire ensemble via des associations, des actions communes. Il y a aussi le monde économique, des entreprises qui peuvent aussi avoir leur rôle à jouer, parce que c'est eux qui ont l'argent, qui ont le financement pour pouvoir mettre en place des projets d'envergure. Et il y a forcément aussi la sphère publique, les politiques qui peuvent aussi faire accélérer les choses à travers, en mettant la législation et en invitant différents, que ce soit les individus ou les entreprises, à mettre en place des choses. Donc c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas c'est tout ce monde-là, c'est tout ce collectif qui doit se mettre en route ensemble.
Et depuis quelques années, on voit aussi évoluer chez les jeunes ingénieurs une préoccupation de plus en plus importante face au dérèglement climatique, de jeunes ingénieurs diplômés qui renoncent aux grandes carrières promises pour s'engager dans des projets alternatifs et de transition. Cette élite intellectuelle qui a bâti en fait les villes d'hier, est-ce qu'elle peut finalement devenir l'architecte de la ville de demain? Est-ce que vous avez rencontré ce genre de profil pour la réalisation de votre film, des jeunes ingénieurs qui sont beaucoup plus tournés vers ces questions-là?
Alors c'est une question un peu philosophique, mais je dirais que au vu de la prise de conscience des jeunes aujourd'hui, effectivement, ils peuvent améliorer ce qu'il y a et les erreurs, même si on peut pas forcément appeler ça des erreurs parce qu'on ne savait pas forcément avant. Mais en tout cas, ils peuvent prendre en compte des choses qu'on ne prenait pas en compte auparavant, et ça, c'est peut-être intéressant. Après, l'enjeu, c'est que maintenant, les villes sont quand même à, on le dit, hein, 80-90% déjà construites. Donc construire. La construction ne va pas nous sauver, ça va être plutôt de la rénovation, le réaménagement qui est vraiment clé aujourd'hui si on veut renaturer nos villes. Mais il existe aussi encore une fois des solutions, on en parle dans le film, et effectivement on peut miser sur les jeunes aujourd'hui pour le faire parce qu'il y a une vraie prise de conscience.
Mais alors ces solutions dont vous parlez, que vous montrez dans le film, elles demandent quand même aussi un investissement peut-être de la part des institutions, investissement politique, investissement financier. Quel constat est-ce que vous avez pu faire quand vous êtes allé à la rencontre de ces gens? Est-ce qu'ils sont soutenus par les institutions ou alors est-ce qu'ils travaillent à l'écart des pouvoirs publics?
On a vu un peu tout. Souvent, ils peuvent commencer à l'écart, mais de suite, si ça devient, si le projet prend de l'ampleur, il s'y intéresse très rapidement. Donc il ne faut pas minimiser, je crois, la force citoyenne. Il y a un exemple tout bête qu'on n'a pas documenté, mais qui est dans le film Demain, qui sont les Incroyables Comestibles, qui est justement un groupement de citoyens, citadins, qui veulent se réapproprier la ville, et un peu comme le gangster gardener, commence à s'occuper de certains espaces verts pour y planter des fruits et légumes. Et ils s'en occupaient super bien. Et donc un jour, le maire est venu, il leur a dit, mais attendez, c'est quoi ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et il y a eu donc une consultation, ils ont commencé à réfléchir à comment encadrer cette activité-là. Elle prenait tellement d'ampleur qu'ils devaient à un moment donné obligés à d'encadrer cette activité-là, et ça a donné naissance à ce mouvement qui est presque mondial, puisque ça a été un exemple qui a été repris dans le monde entier. On a, je crois, dans chacune des villes presque du monde, une association qui s'appelle Les Incroyables Comestibles. Donc, il ne faut pas sous-estimer effectivement la force citoyenne.
Et alors, vous le disiez au début de cette émission, hein, ce que vous avez adoré finalement dans la réalisation de ce film, c'est la rencontre avec des personnalités vraiment marquantes. Si vous deviez en retenir une ou deux, ça serait lesquelles vous ont le plus profondément marqué?
Je dirais Ken à Chicago, donc ce vieux monsieur qui fait ça depuis 60 ans. Et en fait, la force de ce personnage, c'est qu'il fait ça depuis 60 ans, il n'y a pas forcément grand-chose qui bouge autour de lui, à part lui.
Il fait quoi?
Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il faut un peu expliquer. Lui, il fait des fermes urbaines sur des terrains vacants, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un délai entre une déconstruction et une construction d'à peu près 5 à 10 ans. Et donc lui, il occupait ces terrains vacants avec l'autorisation de la ville, et ils installaient des fermes urbaines avec des jeunes souvent, et donc avec les populations locales, pour pouvoir animer, créer des événements et produire. Là, pour le coup, lui, il produisait en pleine terre des fruits et légumes. Mais ces terrains-là étaient pollués, donc il a réfléchi comment je peux les dépolluer en 5-10 ans, ce qui n'est pas possible, malgré ce qu'on peut nous faire croire. Donc lui, il s'est dit, je vais récupérer tous les biodéchets de la ville dans les restaurateurs et je vais en faire du compost. Et je vais mettre du compost sur presque 60 cm de ce terrain vacant. Donc il plante en fait dans du compost qui est riche et propre, on va dire, hein, sans les pollutions. Il est dépollué en même temps sans en faire grand-chose le sol qui est dessous. Et il peut planter des fruits et légumes qui vont être très bons. Et donc il fait ça avec toute une philosophie autour du social, de la reconnexion en fait des citadins entre eux. Et il fait ça depuis 60 ans. Malgré le découragement de beaucoup de la ville de Chicago, mais il continue à se battre, et c'est la force de ce personnage. Et pour vous donner une petite anecdote de ce personnage qui est juste incroyable, c'est que je l'ai aidé, et on me voit un moment dans le film, je l'aide à collecter ses biodéchets dans la ville avec son gros camion, ses poubelles. Et puis à un moment, j'essaye de porter une poubelle qui fait à peu près, c'est que des biodéchets, c'est que de l'eau. Elle devait faire au moins 80 kilos, donc, cette poubelle. Et donc là, je galère un peu, moi. Et donc là, il me regarde et tous les deux, on porte et on arrive à porter cette poubelle-là. Mais je lui dis, Ken, comment tu fais, toi, quand t'es tout seul? Et il me dit, mais moi, je le fais tout seul depuis des années. Je lui dis, mais pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de le faire avec toi? Au moins de t'aider. Il me dit, mais non, je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire. C'est trop ingrat comme boulot. Donc le mec, il a créé ça il y a 60 ans, il travaille avec plus de 60 jeunes partout à Chicago, et il préfère faire la collecte des biodéchets tout seul, parce que c'est un travail trop ingrat pour les autres personnes de l'association. C'est quand même incroyable.
C'est un sens du sacrifice assez fou, effectivement.
Presque fou, oui, c'est ça.
On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Le public est en train de s'accumuler dans le hall du cinéaste pour assister bientôt à la séance. Finalement, ce qu'il faut dire tout de même, hein, sur La Belle Ville, sur ce film, c'est que c'est un film qui redonne espoir sur un sujet qui a de quoi pourtant nourrir les inquiétudes, les incendies des derniers étés, les inondations de l'hiver, les catastrophes climatiques, on le constate déjà, sont de plus en plus intenses et de plus en plus régulières. François Marquez, après avoir réalisé La Belle Ville, est-ce que vous dites que tout n'est pas perdu?
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas tout perdu, et au-delà d'un film porteur d'espoir, ça m'a donné espoir en me disant qu'il y a ok des solutions, mais ça, les solutions, elles existent depuis longtemps, et sur le papier, on le sait à peu près tout ce qu'il faut faire. Ce qui m'a motivé, c'est de voir ces gens qui se mettent en action et qui montre que ça fonctionne concrètement sur le terrain. Et c'est ça qui m'a donné espoir, et je pense que tout n'est pas perdu, parce qu'effectivement, il y a des aléas climatiques, il y en aura de plus en plus, hein, quoi qu'on dise. Le climat a toujours changé, mais il change de plus en plus rapidement, c'est ça le problème. Et donc ça demande aujourd'hui de s'adapter. Et aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique, on est en plein dedans avec ce film. Il montre des solutions qui nous permettent de nous adapter. Mais il montre aussi que ces solutions vont grandir et pourront être mises à l'échelle que si on se reconnecte aussi entre nous et qu'on arrive à faire grandir et à dupliquer ces solutions partout. Donc il faut aussi garder ce lien aussi entre nous, entre les humains, et pas qu'avec la nature.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François Marquez.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi depuis les cinéastes ou depuis votre radio. Vous pourrez la retrouver prochainement en podcast sur radioalpa.com avec nos autres escapades. La séance pour le film La Belle Ville va bientôt commencer. François Marquez, vous serez bien là après la séance pour échanger avec le public ?
Ouais, tout à fait. Là, on va introduire le film et puis je reviendrai, parce que moi j'ai déjà vu un peu le film quelques fois. Donc je reviens. Viendra à l'issue pour effectivement échanger avec le public, répondre à leurs questions et voilà, débattre, même si c'est plutôt échanger que débattre, mais c'est ça.
Merci beaucoup François Marquez et merci à Evan Goetz pour la réalisation technique de cette émission. Merci aux cinéastes pour leur accueil. Merci au Pays du Mans et à Le Mans Métropole et la Fabrique Rêve de Ville pour l'organisation de cette séance. Et à bientôt tout le monde, c'était Charlie Pless sur Radio Alpa, bien évidemment.
D'écouter à l'instant Radio Alpa en escapade, présenté par Charlie Pless.